Donc la première question traditionnelle, c'est de savoir depuis combien de temps est-ce que vous habitez Orléans ?
Donc nous sommes effectivement arrivés à Orléans en septembre 69. Donc ça fait 42 ans. Et nous venions de Seine-Maritime. Puisque moi je suis originaire de Seine-Maritime et nous avions fait nos études à Rouen, Mont-Saint-Aignan, et après nous sommes arrivés ici, nous sommes installés à Saint-Marceau. Et puis en 82, on a acheté cette maison et on s'est installé ici, au quartier Saint-Marc. Hein, donc nous y sommes depuis. Mmh. Voilà.
Oui, donc ça fait un petit moment que vous êtes là.
Oui.
Et qu'est-ce qui vous a fait choisir ce quartier en particulier ?
D'abord, pour l'arrivée ici, c'est vraiment pour raison professionnelle. Hein. J'ai bêtement répondu à une petite annonce. Et puis, j'ai eu mon premier poste à la direction régionale de l'équipement. Mmh. Et puis après, pour venir plus particulièrement dans ce quartier, c'est que... Bon, on était en appartement, on avait trois enfants. Et donc, on souhaitait effectivement habiter en maison. Mais on souhaitait rester à Orléans et on souhaitait rester près du centre-ville. Et donc c'est la raison pour laquelle... Et puis on n'avait pas de réticence particulière sur le fait d'habiter à l'Argonne ou près de l'Argonne. Et donc on s'est installé ici.
Mmh. D'accord. Et donc le quartier vous plaît ? Vous n'avez pas eu de regrets du coup ?
Non, nous, on est... Non, on s'est installé ici. Bon, on était près d'un collège pour les enfants à l'époque. C'était Jules Gory qui après a connu des vicissitudes puisqu'il a fini par fermer. Mais et donc quand on est arrivé ici, c'était déjà en ZEP. Mais enfin, la scolarité de nos enfants s'est passée normalement. Et puis comme on est par ailleurs militant, je veux dire, bon. On est habitué à, je dirais, à avoir une certaine action sur notre environnement. Et donc celui-là n'était pas plus mauvais que d'autres à cet égard.
Et cette mauvaise réputation, entre guillemets, de l'Argonne, ça vient de quoi
Oh, c'est celle de tous les quartiers d'habitat populaire. Hein. Et comme dans tous les quartiers d'habitat populaire... qui ont vécu un accroissement de la ségrégation au fil du temps, bon, c'est là comme dans tous les autres, hein. pas de différence à cet égard.
Moi, je suis toujours frappée par quand les gens parlent de l'Argonne, on ne sait jamais trop où ça s'arrête, on a toujours l'impression, parce que vous avez il y a le quartier, c'est quoi, c'est la rue du Pressoir Neuf, des petites maisons d'un côté, on a vraiment l'impression que c'est un village, et puis quand on se tourne de l'autre côté, on a l'impression d'être dans une banlieue.
Oui. Non, mais c'est effectivement la grosse différence, parce que bon, il s'avère qu'en plus, dans ma carrière professionnelle, j'ai été chargé de mission. C'est cette parenthèse-là déjà m'identifiera, si vous voulez, donc vous pourrez la supprimer. du début de la politique de la ville, hein, de 83 jusqu'à mon départ à la retraite en 2002. Donc, je connais forcément assez bien tous les quartiers d'habitat populaire de la région centre. Alors, l'Argonne, de ce point de vue-là, du point de vue de sa structure urbaine, est assez différent des autres, parce que ce n'est pas des grands ensembles comme à La Source, où il y avait... La Source, il y a eu, grosso modo, trois gros programmes, hein, un de 600 logements et puis deux de 1200 logements après. Donc ça, on a tout de suite fait un gros paquet. Alors que l'Argonne s'est construite par une urbanisation successive de plusieurs clos, hein, avec un terrain agricole qui se trouvait libéré. Et donc on a construit plusieurs ensembles relativement modestes les uns après les autres. Et donc il n'y a pas cette image de grands ensembles qu'on peut avoir, je ne sais pas moi, au Sanitas à Tours, à la Chancellerie à Bourges ou dans les quartiers nord de Blois. Quoi. C'est beaucoup plus diffus. Le seul quartier important, c'est la Bordeaux-Mignon qui faisait à peu près 600 logements. Mais vous voyez, c'était diffusé dans un tissu urbain complexe. Et c'est d'ailleurs ce qui pose aussi problème parfois, c'est-à-dire que c'est parfois la cohabitation entre des grands ensembles et puis un environnement pavillonnaire qui pose. Et de ce point de vue-là, Saint-Marc, les rues que vous citiez, c'était tout à fait typiquement un habitat pavillonnaire classique, voire ancien.
Donc, et là, le nom de... Donc oui, c'est le quartier Saint-Marc, mais proche de l'Argonne. Et le nom des rues, c'est lié à la présence d'anciens vergers, là, parce qu'il y a les pommiers, les pruniers, les pêchers de l'autre côté.
Non, nous, on connaît le propriétaire du terrain sur lequel est construite la maison. Il habitait de l'autre côté du mur, vous voyez. Et donc, il exploitait... C'était un arboriculteur, et il exploitait tout ce terrain-là. Et si c'est la rue des pommiers, dans le clos des poiriers, c'était tout à fait ça. Mais en revanche, les autres rues, bah, la rue de Malakoff, c'est typiquement une rue du Second Empire. Hein, et à l'entrée de la rue, il y a une maison qui s'appelle Malakoff. De même qu'un peu plus loin, vous aviez la villa Sébastopol. Enfin, il y a eu une urbanisation de ce quartier-là par des maisons plutôt de bon standing, quoi, hein. Donc il y a eu une urbanisation, Il y a eu des constructions au moment du Second Empire, et puis après. Mais l'origine, c'était d'abord de la viticulture, puis après le phylloxéra, de l'horticulture et du maraîchage. Et donc, d'où la rue des pommiers. Et en face, il y a la rue des pêchers, la rue des...
voilà. Oui, c'est intéressant parce que j'ai interviewé une semaine dernière une dame dans la rue du Poirieron.
Oui.
Elle me racontait son histoire aussi en disant que son père était agriculteur, qu'ils avaient de la vigne, que toute sa famille travailler la vigne, et puis que maintenant, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule personne dans sa famille.
Il y a des noms de famille. Nous, c'était la famille. Mais tout ça, ce sont des familles d'horticulteurs du quartier.
Et donc, par rapport à votre trajectoire personnelle, donc vous êtes originaire de Rouen, alors, c'est ça?
Non, moi je suis carrément du pays de Caux, donc du milieu de. Du centre du pays de Caux.
Et votre famille aussi,
même l'essentiel de ma famille est toujours. Moi j'étais né au milieu du pays de Caux, après j'ai eu mes parents, parce que mes parents étaient agriculteurs, donc on a vécu un peu, au nord de Dieppe. Hein. Et l'essentiel de ma famille est encore dans cette région.
Et donc au niveau de votre trajectoire, comme on dit, personnelle, donc au niveau des études, vos études, ce qui vous a amené à Orléans ensuite.
J'étais le sixième d'une famille de sept, donc d'origine paysanne. En général, le dernier, on essayait qu'il fasse des études. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait une licence de sciences éco et que je me suis retrouvé à la direction régionale de l'équipement, où je me suis occupé de l'économie du bâtiment et des travaux publics dans la région, puis après du logement dans la région centre. Et ensuite, et en parallèle de la politique de la ville, dans les différentes villes de la région, en relation avec les préfectures et les villes concernées. Donc voilà.
Donc maintenant vous allez faire comme si madame n'était pas là. J'ai une question sur l'épouse.
On est arrivé ensemble. Femme. Donc on était mariés quand on est arrivé là. Et donc comme on a eu trois. Quand on est arrivé, on a eu un enfant. Deux sont nés à Orléans, et donc il n'y a pas eu d'activité professionnelle pendant un certain temps. Et puis après, elle a pris une activité à temps partiel auprès de la Fédération des parents d'élèves. Et puis en 81, comme on était des militants politiques à Orléans depuis 71, et c'est donc Jean-Pierre Sueur a donc proposé d'être travaillé auprès de lui, donc elle a été assistante auprès de Jean-Pierre Sueur à partir de 81. Et puis à son cabinet à la mairie à partir de 89. D'accord. Donc jusqu'à la fin du mandat. Et donc moi je suis à la retraite depuis 2002.
Voilà. D'accord. Et donc vos enfants, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'ils font et les études qu'ils ont
faites? Ils ont tous les trois fait une thèse de doctorat d'État. L'un en physique, en mécanique des fluides. Et donc, il est ingénieur de recherche à Copenhague, dans une entreprise danoise. La deuxième a fait une thèse de linguistique à Tours. Et puis, elle s'est donc spécialisée dans la langue des signes. Et maintenant, ils habitent à Mont-Saint-Aignan parce qu'elle a commencé à travailler à la faculté des lettres de Mont-Saint-Aignan. Et comme elle était rattachée à une équipe du CNRS, qui a dû faire son agrément, et donc maintenant elle est à Paris 8, à Saint-Denis, en restant à Orléans. Et puis la troisième a fait une thèse de sociologie de la culture, et donc à Paris, d'abord à l'école des hautes études, et puis après avoir travaillé quelque temps à Lyon, elle travaille au Centre national de la danse, où elle s'occupe des métiers et des danseurs. Mmh. Voilà. Mmh.
C'est trois beaux parcours. Et au niveau de leur scolarité, quand ils étaient plus petits, donc vous m'avez dit, ils ont tous été au collège.
Les deux dernières ont commencé à Charles Péguy. Et puis après, ils sont tous passés par Joliot-Curie. Et donc l'aîné après est allé à Janzé, la seconde est allée à Potier. Et puis la troisième est allée à Janzé. Donc ils ont fait leur scolarité. Et ce qui explique aussi notre choix, c'est qu'on voulait effectivement ne pas être loin d'un établissement scolaire, et puis après même du centre-ville pour les lycées. Mmh. Et l'aîné a commencé ses études à la fac des sciences d'Orléans, puis il les a poursuivis à Mont-Saint-Aignan. La seconde a effectivement fait une prépa à Potier, et puis est allée faire sa licence à Tours. Et donc la troisième a intégré Sciences Po directement, donc voilà pour leur scolarité. Mmh. Elle a fait Sciences Po, puis l'école des hautes études.
D'accord. Donc c'était tout dans le public. Oui, dans l'école Saint-Marc ou le...
Ah oui, non, 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 non. Non, 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 on n'avait pas de... C'était un choix, le fait de les mettre dans le privé est un choix, donc disons, par conviction, on aurait plutôt fait le choix inverse, mais la question ne s'est pas posée, quoi. C'était spontané.
Donc c'était pas au moment où Joliot-Curie allait fermer, c'était... Ils n'étaient pas encore à... C'était
pas non, là. Non, quand ils étaient à Joliot-Curie... C'était déjà... on a connu Joliot-Curie en ZEP, hein, mais ce qu'on a dit après, ce que les enseignants ont dit après, ils ont dit c'était en ZEP certes, mais enfin ça s'est quand même sensiblement dégradé, et donc nous on n'a pas connu la situation où la situation était beaucoup plus dégradée à Joliot-Curie, où les effectifs ont dégringolé à moins de 300. Donc nous on n'a pas connu cette période-là. Hein. Et à l'époque, je pense que même si c'était pas dit comme ça, il y avait quand même de fait des classes par niveau. Hein, c'était... Et donc, en France, on fait une scolarité normale.
D'accord. Et le quartier pour les enfants, c'était agréable? Il y avait des activités, des associations
On ne peut pas dire qu'ils aient eu une activité dans le quartier. Hein. Mais L'aîné a fait du judo, mais il le faisait à Saint-Jean-de-Bray. Et puis, les filles, par exemple, quand elles sont allées à la chorale, elles allaient à la chorale à la source. Enfin bon, il n'y a pas eu, ils n'ont jamais eu une activité spécifiquement de quartier en tant qu'enfant. Quoi. Mais c'est en fonction de ce qu'ils ont choisi. Quoi.
Donc il y avait de quoi faire au niveau des équipements sportifs ou.
Enfin, on peut pas dire, ici, mais... nous, compte tenu de nos choix, on ne peut pas dire que c'était un problème pour nous. Quoi. Hein? On peut dire ça comme ça.
Hein? Et alors, toujours sur le quartier, il n'y a pas de commerce dans le coin. Il faut aller.
Il n'y a pas de commerce. Il y a les commerces de proximité, rue de l'Argonne. Hein, je veux dire. Alors, c'est vrai que le centre commercial de Marie Stuart. Là aussi, c'est sensiblement dégradé au fil du temps. Enfin, pour ce qui est commerce quotidien, elle a fermé, mais avant, il y avait une excellente boulangerie au bout de la rue. Donc, et puis là, bon, rue de l'Argonne, pharmacie, place Marie Stuart. Alors, c'est vrai que il y a un marchand de journaux, mais... du fait de la diffusion du Monde, il n'a plus le Monde le soir. Alors je vais acheter le Monde rue de Port-Saint-Vincent, mais là c'est pas lié au quartier, c'est lié au fait que la diffusion du Monde le soir est restreinte à l'intramail. Mais bon, puis, enfin, pour ce qui est des commerces, nous, on est. Enfin, surtout depuis qu'on n'est plus que tous les deux, on n'est pas des grands consommateurs et donc on va au commerce. Il y a une petite surface à Saint-Jean-de-Bray, pas loin, donc c'est pas un problème. Alors, c'est vrai qu'avant, rue Saint-Marc, il y avait effectivement des commerces et que c'était sur le chemin. De notre maison au centre-ville, ça facilitait bien les choses. Hein. Enfin, notamment, il y avait un boulanger, un boucher, enfin, bon. Et pratiquement, c'est vrai que ces commerces-là ont pratiquement disparu. Enfin, dire qu'il n'y a pas de commerce. La rue de l'Argonne, il y a un commerce assez vivant. Hein.
Oui, d'accord. Et donc, à propos de votre métier, Vous êtes en vacances. Tout le temps. Mais donc avant, vous étiez à la direction générale de...
régionale de l'équipement, oui. Ce qui fait que je travaillais sur les 6 départements de la région.
Hein. Et donc ça consistait en...
Quand je suis arrivé, c'était le ministère avait le projet de monter... une association entre les professionnels du bâtiment et le ministère de l'équipement pour suivre l'activité, et c'était une instance de concertation, ce dont je me suis... normalement ça devait déboucher sur une association, mais c'est vrai qu'il y en a en région centre, elle a été longue à se manifester, mais donc... je dirais que je participais à un lieu de concertation entre les professionnels et le ministère. Et puis après, je me suis occupé... il y a eu quelqu'un dans mon service qui s'est toujours occupé de cette activité-là, mais moi, je me suis occupé plus particulièrement du financement du logement, de la programmation du financement du logement social. Donc là, j'étais en relation... avec les directions départementales, les 6 directions départementales de l'équipement, les 6 préfectures et les professionnels du logement social, enfin les organismes HLM pour l'essentiel, où participaient aux études de besoins et à la programmation. Et puis quand la politique de la ville a été lancée, qui s'appelait à l'époque le développement social des quartiers, en fin 82, début 83, le préfet de région de l'époque m'a demandé de j'irais d'assurer le suivi et l'animation de cette politique au niveau de la région. Donc j'étais le correspondant régional de la délégation interministérielle à la ville quand elle a été créée un peu plus tard. Et puis je suivais les contrats de développement social des quartiers que passaient les préfets avec les différentes collectivités locales, avec les différentes mairies. Et là encore, bon, comme il y avait une programmation régionale, on assumait la préparation, puisque c'est toujours les préfets qui décident en fin de compte. Donc voilà.
Et donc vous aviez des locaux, des bureaux qui étaient...
Ah non, mais j'étais toujours à la direction régionale de l'équipement. Enfin, si j'avais deux bureaux, j'en avais un à la direction régionale de l'équipement et un au SGAR, au service général des affaires régionales. Donc, et je travaillais avec les autres services de l'État. Hein, comme c'est une mission interministérielle, donc au niveau régional, on travaille forcément avec les autres directions régionales, la DRAS, le rectorat, la direction régionale du travail, l'emploi, etc., qu'on retrouve dans chacun des contrats qui étaient passés au niveau des agglomérations et au niveau départemental.
D'accord. Et donc ce choix de carrière particulier, ça vous est venu, vous l'avez vu tout petit ?
Non, je pense pas qu'il y ait, là, il y a plus de déterminisme que de choix, tout ça. Non, ce qui s'est passé aussi, c'est que, je voulais dire, enfin, on a eu très tôt un engagement militant, et donc, je dirais que j'ai peut-être privilégié, enfin, pas privilégié, non, mais disons que c'est le choix d'une implication locale, et ce qui fait qu'après, c'était important d'avoir un ancrage local pour l'action militante.
Et vous m'avez parlé de vos études, vous m'avez dit que vous avez fait une licence en
sciences économiques.
Sciences économiques,
ouais.
D'accord.
Enfin, à l'époque, c'est l'équivalent d'une maîtrise, c'était en 4 ans. Hein.
C'était à quel endroit, ça ?
À Mont-Saint-Aignan, à Rouen. Enfin, c'était l'Académie de Rouen, mais c'était à Mont-Saint-Aignan.
Et après, il a fallu faire une autre formation pour...
Non. Bah, le premier poste, c'était de l'économie, mais le deuxième, le logement, c'était essentiel. C'était de l'économie aussi, dans la mesure où il s'agissait beaucoup de financement, d'études de marché, etc. Et puis, après, c'est l'expérience qui fait que je me suis retrouvé à m'occuper de la politique de la ville, parce que... fait de l'époque a dû considérer que j'avais suffisamment d'expérience pour avoir une approche interministérielle. C'est ça que je me suis retrouvé dans ce poste.
D'accord. Et donc, bah évidemment, vos enfants n'ont pas suivi la même carrière que vous, mais est-ce que c'est quelque chose que vous leur auriez conseillé, ou est-ce qu'ils ont fait leur choix tout seuls ?
On ne leur a rien conseillé du tout, ils ont fait ce qu'ils ont eu envie de faire. Non, c'est leur choix, c'est pas le nôtre. Hein.
Non, c'est des fois on tombe dans des familles où il y a des métiers de père en fils, etc. Mais ça, c'est rarement.
Non, puis il y a une part aussi de hasard. Hein. Si notre fils se retrouve au Danemark, c'est parce que dans le cadre de ses recherches, il travaillait sur. Comme toujours à ce niveau-là, c'est toujours assez spécialisé. Hein. Bon, il travaillait sur des matériaux, sur des matériels que fabriquait en particulier une entreprise danoise, et donc il s'est retrouvé en contact avec cette entreprise, il s'est retrouvé au Danemark. Ils n'étaient pas hostiles à l'idée d'aller travailler à l'étranger, mais je veux dire, ce n'est pas forcément une volonté. Et notre seconde fille s'est fait de la linguistique, elle a commencé par lettres classiques, et puis, bon, elle s'est orientée autrement. Et la troisième, bon, là, si, dès qu'elle a fait Sciences Po, elle voulait faire Sciences Po à dimension culturelle, donc là, c'est peut-être plus déterminé, mais autrement, non. Il n'y a pas de... Il n'y avait pas de d'influence directe, consciente en tous les cas, de la part des parents sur leurs enfants.
D'accord. Et donc maintenant que vous n'avez plus d'activité professionnelle, comment est-ce que vous occupez votre temps ?
D'abord, quand j'ai... Bon, on a toujours été en relation avec l'une ou l'autre des associations, hein. Et en 2004, des amis qui m'ont demandé de prendre la présidence de la régie de quartier. Alors la régie de quartier, enfin, ce sont des associations que je connaissais au titre de la politique de la ville. Et donc, c'est une association qui avait une double démarche, c'est-à-dire d'être une association d'insertion pour les habitants des quartiers en difficulté, et puis en même temps une démarche citoyenne, c'est-à-dire de faire en sorte que les habitants participent davantage à la vie locale, et alors et soient des acteurs de la vie sociale de leur quartier. Et donc, j'ai assumé la présidence de cette association de 2004 jusqu'en 2010. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup occupé. D'abord parce que ce sont des associations difficiles à manager, puis il y avait quand même environ 70 salariés. Hein, donc, alors, en général, les présidents d'associations, vous savez, il y a différents types d'associations. Hein, parfois... président est lointain, puis c'est le directeur qui s'occupe de tout. Bon, là, c'était pas exactement le cas. Donc, j'étais très, très investi dans cette affaire-là, jusqu'à ce que la mairie d'Orléans crée une association qui s'est appelée Orléans Insertion Emploi, et qu'elle Enfin, je ne peux pas dire qu'elle nous a mis le marché en main, mais elle nous a dit, on crée une association où vous fusionnez votre association avec la nôtre, où de toute façon, à terme, vous n'aurez plus les marchés pour faire vivre votre association. Donc, on a fusionné avec, au terme d'une négociation un peu difficile avec la ville d'Orléans. Notre association a disparu à partir de janvier 2010, et donc ça fait un an où j'ai plus de responsabilité associative, mais c'est pas pour ça que j'ai plus aucun engagement, parce que bon, déjà je continue, même si j'ai eu des responsabilités politiques militantes, j'ai jamais eu de mandat électif. Donc je n'en ai plus, mais enfin je continue à m'intéresser à la vie politique locale.
D'accord. Et au niveau des loisirs, quand on n'est pas militant
vous... les loisirs, je dirais, c'est bon, comme tout le monde, non, c'est pas comme tout le monde. Enfin, on va au cinéma, au théâtre, et on fait un ou deux voyages par an. Quoi. Donc. Plus quand même les enfants et petits-enfants, puisqu'on a 8 petits-enfants. Donc, on disait qu'il y en avait un qui habitait au Danemark, donc on y va en général une fois par an. Et puis de temps en temps, on va et on reçoit nos petits-enfants, et autrement pour... pour les loisirs, on va au cinéma et on va au théâtre. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut souligner que la vie culturelle orléanaise est quand même, je pense, assez riche. Et en particulier depuis la municipalité Sueur, parce que je pense qu'il y a eu un effort dans le domaine culturel très important à ce moment-là, et avec le Centre dramatique national, la scène nationale, le Centre national de la danse, etc. Je trouve qu'il y a, effectivement beaucoup de, possibilités pour ceux qui, souhaitent en profiter.
Oui, donc vous trouvez que...
Et puis, oui, comme on est en même temps, effectivement, membre de l'association des amis du, musée, et ce qui me faisait penser à ça, c'est que arrivé qu'on fasse que le voyage annuel que l'on fasse, parfois on le fait avec l'association des, amis du musée, qui donne une dimension culturelle à, au voyage qu'on, fait une fois par an.
Donc au niveau des vacances, vous partez à l'étranger, donc déjà il y a le Danemark.
Pas forcément au niveau des vacances.
C'est vrai que là vous pouvez organiser votre temps.
Non, tous les voyages en général on les fait en dehors des vacances classiques, hein. c'est plutôt au mois de mai ou au mois de septembre. Et pendant les vacances on cherche plutôt à se garder libre pour notamment les allées et venues des petits-enfants. Et puis c'est pas forcément fréquent, mais on est on a fait du camping très tôt. Et on continue à faire du caravaning, donc pour nos loisirs. Ça nous permet d'ailleurs de ne pas avoir trop à programmer à l'avance et de rester libre sur le choix des destinations.
D'accord. Et si vous aviez des vacances de rêve, si vous gagniez au loto par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plairait particulièrement ?
Oh, vous savez... Non, là, les derniers voyages qu'on a fait, justement, on était allé en Égypte faire la vallée du Nil, comme tout le monde, et puis avec les amis du musée, on est allé en Jordanie, à Petra. Et donc, dans le passé, comme on a aussi des amis d'origine polonaise, on est allé en Pologne où on a fait. Circuit, nous, Tchécoslovaquie, Hongrie, etc. Bon, et non, il n'y a pas de rêve. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Chine en 86. J'y retournerai volontiers pour voir le changement, parce que je pense que un bouleversement qui doit être... qui est important, mais j'aimerais bien le voir. Et puis autrement, on a eu l'occasion effectivement d'aller dans les pays du Maghreb ou en Afrique, au Bénin. Enfin, en général, c'est souvent des circonstances un petit peu particulières, hein, parce que quand on est allé au Bénin, c'était avec l'association Orléans Paracou. Donc ça permet, c'était pas le voyage touristique classique, c'est-à-dire que on avait des contacts. Et de la même façon, quand on est allé en Algérie, mais c'était aussi 88, je crois, hein, oui, 88. Bon, c'est parce que il y a quelqu'un pour nous accueillir. Donc quand on a l'occasion de pouvoir faire des voyages dans ces conditions, c'est plus agréable. Et puis autrement, on essaie, quand on est allé en Israël, quand on le peut, on y va seul, enfin on prend l'avion, on loue une voiture, et puis quand c'est possible, et puis maintenant on le ferait peut-être moins qu'on ne l'a fait, mais voilà. Donc il n'y a pas de rêve, il n'y a que des y a que des souhaits à la rigueur. Hein.
D'accord. Oui, donc vous avez quand même pas mal voyagé, pas mal visité.
Oui, par rapport au retrait, par rapport à ce qu'on voit faire là, à certains retraités qui chaque année programment au moins leurs deux voyages. Bon. Donc, enfin bon, on essaie de quand même de sortir un peu.
Donc on parlait de la vie culturelle tout à l'heure. Enfin, Orléans est bien doté de ce point de vue-là. Et au niveau de l'aménagement, par exemple, je sais pas, des parcs, les quais qui ont été refaits il y a peu de temps, enfin, il y a toute une politique d'embellissement de la ville. Vous en pensez quoi, vous?
Non, vous savez, on dit toujours, quand on est arrivé à Orléans en 69, on était frappé par le nombre de magasins de chasse et de pêche qu'il pouvait y avoir quand on était au bas de la rue Royale, de part et d'autre. Bon, et c'était quand même une ville qui restait très, très petite ville, quoi, hein, très, bon. Et je crois qu'on est arrivé justement au moment où les choses ont bougé, c'est-à-dire que, d'ailleurs ce que m'avait dit mon chef de service, il m'avait dit « Oh, vous arrivez le matin à Orléans et puis l'après-midi vous avez un logement. Bon. » Et je crois que c'est justement à cette période-là que les choses ont changé, parce qu'il y a eu, entre 62 et 69, quand les Américains sont partis en 62, ça a libéré énormément de logements. Et donc, jusqu'en 69, c'était effectivement pas très très tendu. Et après 69, en plus c'est une ville qui s'est quand même très très fortement développée. Hein. C'était l'une des agglomérations qui avait le plus fort taux de développement en France, hein, avec Montpellier, Toulouse, et puis l'agglomération Grasse-Cannes. Mais donc c'est une ville qui a vraiment beaucoup bougé. Et c'est vrai que pendant la première période, j'ai participé au ce qui s'appelait le GMAO, hein, le groupe d'études municipales de l'agglomération orléanaise, qui était l'équivalent d'un GAM local. Hein. Et donc, on était très critique sur l'absence de vision globale du développement de l'agglomération. Alors, ce crétin avait eu, lui, une vue de la ville quand il avait contribué à créer la source, et puis à faire implanter l'université à la source. Bon, moi, je suis pas convaincu que c'était un bon choix, mais enfin, il y avait un projet. Mais après, les deux mandats de Tina, ça a été assez... une gestion un peu à courte vue. Enfin, il y a eu quelques équipements de réalisés, il y a eu le théâtre qui a été réalisé, certains équipements comme la patinoire qui ne sont pas un modèle d'organisation. Et puis après, il y a eu la municipalité d'Oufiag qui a notamment fait cette catastrophe urbanistique qui est le quartier Gare. Bon, et donc on est resté très 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 critique. Bon, autrement, dans la dernière période, c'est vrai que l'amélioration du centre-ville est ravalement de façade est une chose tout à fait positive. En revanche, puisqu'on est à l'Argonne, et il va y avoir la semaine prochaine une réunion d'ailleurs sur la convention territoriale de l'Argonne, il ne s'est pas fait grand-chose sur l'Argonne pendant les 7-8 dernières années. Quoi. La ville a géré le GPV, le grand projet de ville de la source qui avait été lancé par la municipalité de Sœur, donc la municipalité Rouard l'a gérée, elle a mené des actions en centre-ville, mais pour des quartiers comme l'Argonne, il s'est vraiment pas fait grand-chose pendant tout ce temps-là. Et je me souviens toujours d'ailleurs d'un responsable territorial disant que c'était un quartier planté. Et donc maintenant, je pense que les projets de la source commençant à être avancés, je pense qu'ils vont commencer à se préoccuper un peu plus des choses. Et puis, donc il y a eu tout ce qui tourne autour du tramway. Hein. C'est vrai que la première ligne a été une décision extrêmement importante sur la ville. Et que le fait qu'il ne se soit rien passé pendant un mandat a été... C'est regrettable. Je veux dire qu'on n'enchaîne pas, comme ça a été le cas à Montpellier ou ailleurs, qu'on n'enchaîne pas sur la deuxième ligne après avoir fait la première. Ça aurait contribué à faciliter l'organisation de la ville. Donc maintenant... On est en plein dedans, on est dans les difficultés de chantier, normal, enfin, je veux dire. Alors peut-être que le chantier n'est pas remarquablement géré, mais enfin je veux dire, tout chantier de ce type génère des difficultés. Hein, et donc bon, il faut les vivre pour en attendant d'en profiter. Alors pour ce qui est des parcs, je ne vois pas bien à quoi vous pouvez faire allusion, parce que moi. Il y a le petit parc de l'Étuvée ici à l'Argonne qui a été créé avant cette municipalité. Et autrement, le parc des Groux, on en parle comme d'une Arlésienne. Et autrement, ce qui a été fait sur Saint-Marceau a été fait avant, hein, dans le cadre derrière l'église, tout ça. Et je vois pas bien. Alors il y a. Des efforts de plantation, mais
bon. Oui, il y a eu des arrachages plutôt le long, là où avant où il y a le marché, et maintenant là il y a tout un endroit où il y avait des pins justement, puis avec les nouveaux quais ils ont tout enlevé. Je sais pas s'ils replanteront quelque chose.
Non, ça je pense que le maire a la volonté de mettre des arbres un peu partout, donc. Non, ce qui est le plus visible, c'est effectivement l'aménagement du centre-ville avec la politique de ravalement de façade et de création de rues piétonnières. Bon, je pense qu'on en tirera tous les profits quand la deuxième ligne de tramway sera achevée.
Hein. Vous n'êtes pas loin justement là.
On se retrouvera avec trois stations de tram là. À portée de la main, même étude, elles sont vraiment assez proches l'une de l'autre. Rue d'Ambert, une au Grandvilliers, et puis une à la place Mozart. Donc pour nous, elles sont toutes les trois accessibles. on appréciera.
Ce qui est appelé le Grandvilliers, c'est...
La rue du Grandvilliers.
Oui,
c'est... Là, si vous voulez, il y a le boulevard Marie-Stuart, et puis donc il y a la place Marie-Stuart, la place Mozart, il y aura une station au droit de la rue du Grandvilliers et du boulevard Marie-Stuart, et puis une troisième station au droit de la rue d'Ambert. Donc ça fera, nous on aura vraiment trois stations. Je suis un peu étonné, je vais pas, je pense que celle du Grandvilliers s'imposait pas, mais bon, puisqu'elle est prévue, on en profitera. Oui, donc signaler aussi, c'est vrai que parmi les aspects positifs, oui, il y a les aménagements du bord de Loire, et c'est vrai que ça, la promenade de bord de Loire, d'abord, elle est quand même très, très appréciée des Orléanais. On voit bien le nombre de gens qui se promènent et qui est en nette augmentation par rapport à ce que c'était avant. Pas sûr qu'il était indispensable de créer le port au bout du canal, mais enfin... Ou en tous les cas, ça pouvait attendre qu'on soit sûr qu'il y ait un jour des bateaux. Mais en tous les cas, l'aménagement des bords de Loire est une chose agréable.
Oui, c'est devenu un lieu de promenade l'été, le soir.
Oui.
Et pour revenir sur le côté loisir, au niveau de la télévision, de la radio, vous regardez beaucoup la télé, vous écoutez la radio?
On écoute... Enfin, moi j'écoute beaucoup la radio le matin, dans toute la plage d'information, hein, du lever jusque vers 9h. Et puis au moment des informations de midi, autrement j'écoute pas énormément la radio. Et on regarde la télé le soir à partir du journal télévisé. Et puis surtout maintenant qu'on est câblé, bon, quand même un choix très 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 important. Et donc c'est vrai que c'est bien rare qu'il n'y ait pas au moins une chose intéressante à regarder. Et donc on regarde la télé, oui. Mais bon, grosso modo le soir.
Mmh. Et vous disiez que vous lisiez le Monde, donc, comme au niveau des lectures, vous lisez la REB, vous lisez.
Oui, ou pas comme la REP, le Monde et le Nouvel Observateur. Donc ça fait. Plus Télérama. Ce qui est, je crois, quand même assez classique.
Oui, c'est pour avoir une idée de la lecture des gens. Ils regardent beaucoup la télévision ou non. Et au niveau de l'ordinateur, vous en servez beaucoup
ou... je m'en sers parce que, notamment, dans le cas des activités militantes, ça a quand même beaucoup simplifié la vie. Hein. Quand il y a... je m'en sers couramment, mais je dirais de façon assez utilitaire. Hein. Je ne suis pas du tout, même pour Internet, je ne peux pas dire que je sois un grand consommateur d'Internet. Ça m'arrive de faire une recherche occasionnelle, mais je ne suis pas... peut-être une question d'âge aussi. j'utilise sans plus. Quoi.
Mmh. Ouais. Oui, c'est souvent les gens qui participent à différentes associations ont besoin justement d'utiliser l'ordinateur, enfin comme
moyen de
communication.
Quand vous faites un courrier à un bureau, un conseil d'administration, et puis que vous avez un clic à faire au lieu de... au lieu d'envoyer 20-30 lettres, donc oui, non, ça a vraiment beaucoup simplifié les choses, oui.
D'accord. Et au niveau des manifestations qu'il peut y avoir à Orléans, vous allez au festival de jazz, aux fêtes de Jeanne d'Arc, la caravane de Loire, par exemple.
Le festival de jazz, on y est plus allé qu'on y va, parce que c'est vrai que quand on était à la mairie, ça nous facilitait les choses. Hein. on y allait. On continue à y aller, mais moins. Les fêtes de Loire. L'année dernière, on n'était pas là, mais autrement, on y est allé. On y va si. Enfin, si on est là, on y va volontiers. Les fêtes de Jeanne d'Arc, c'est assez amusant parce que quand on est arrivé à Orléans, on profitait de cette période pour quitter Orléans. Et donc, on n'allait pratiquement jamais. On a dû y aller une fois ou deux aux fêtes de Jeanne d'Arc. Et puis, après, j'étais à la mairie, là au contraire, on y allait régulièrement tous les ans et même au nom. On a profité pour inviter l'un ou l'autre des membres de la famille pour qu'il en profite. Et je dois dire que depuis, je crois qu'on a repris les habitudes. C'est que si on n'est pas là à ce moment-là, c'est pas plus mal. Mais si on est là, on ne fait pas de gros efforts pour être de la moitié d'Orléans qui voit défiler l'autre.
Et toujours au niveau du local à Orléans, est-ce que vous connaissez la rumeur d'Orléans? cette fameuse histoire dans les années 70.
Alors, on la connaît parce que c'est justement au moment où on arrivait.
Ah bah oui, c'était juste...
Oui. Ouais. Nous, donc, le fait de savoir, j'ai dû savoir en juin que qu'on allait venir à Orléans. Et donc, c'est à peu près à ce moment-là qu'apparaissait dans la presse l'écho sur la rumeur d'Orléans. Bon, je ne peux pas dire que ce n'est pas ça qui nous a beaucoup émus à l'époque. On aurait été à Orléans, peut-être que ça nous aurait peut-être plus interpellés. Hein. Mais bon, en plus, c'est des phénomènes qu'on a quand même retrouvés, et qu'on a retrouvés ailleurs. Hein, donc... Mais non, mais c'était assez, je crois que c'était assez révélateur d'une ville en plein bouleversement, quoi, une ville qui est en train de perdre ses repères. Les gens savent plus, enfin, il me semble hein, qu'il y a eu un passe. Enfin, je sais pas, c'est parce que je viens de relire le bouquin de Jouma sur Dreyfus à Orléans. C'est vrai que, disons que c'était une ville qui n'a pas été très Dreyfusarde, quoi. Bon, et que ça ait réémergé comme ça dans une période de troubles, et particulièrement à Orléans, et peut-être pas complètement accidentel. Hein. Bon, ceci étant, bon, maintenant je pense que c'est largement derrière nous. D'abord, si on regardait maintenant combien d'habitants d'Orléans sont orléanais, enfin, ou sont nés à Orléans, ou, je pense qu'il n'y en a pas un sur deux. Hein. Donc,
oui, il y a pas les grandes familles comme...
Oui.
Il y a moins en moins d'Orléanais.
Ah mais non, mais les familles, elles sont toujours là. Je veux dire... mais l'environnement a beaucoup changé. Hein. Je pense à ça, mais c'est assez caractéristique. Si on regarde les deux derniers maires, Sueur était né dans le Nord, Rouard n'est pas né à Orléans. Hein, je veux dire, Non, ça fait pas partie de ces villes qui ont connu des bouleversements démographiques et donc sociologiques très importants.
Ouais. Alors justement, si on compare Orléans et Tours, parce que toujours une petite compétition entre les deux, laquelle des villes représente mieux la région centre à votre avis, ou est-ce que c'est idiot de vouloir les mettre en compétition tout le temps?
Il y a un côté folklore journalistique... Et malheureusement entretenu parfois par des responsables, hein, et y compris parfois universitaires. Hein, parce que les deux universités n'aient pas été foutues de coopérer plus tôt, c'est quand même assez affligeant. Mais bon, les centres s'y mettent. Donc,
Le laboratoire est bicite. Ça, bon, c'était.
Hein, donc, les centres s'y mettent. Non, moi, je n'ai jamais été Vous savez, de la même façon que Orléans est une ville peu accueillante, etc. Bon, tout ça, c'est une part de cliché. Nous, on venait de Rouen, on entendait la même chose. Vous allez à Bordeaux, vous entendez la même chose. Mmh. Bon, donc, ce que je dis toujours, c'est que on s'intègre dans les villes à la mesure de ce qu'on y fait, quoi. Hein. C'est pas... Si vous vous intégrez aucun réseau social, aucun réseau militant, la ville n'est pas accueillante. Bon, si vous militez dans l'une ou l'autre des associations, des partis politiques, bon, vous insérez dans la vie locale. Voilà. Bon, ceci étant, j'accepte de convenir qu'Orléans est peut-être pas parmi les plus accueillantes. Enfin, il ne faut pas non plus en rajouter. Quoi. Non, c'est vrai sur la vie. C'est vrai que si on va C'est vrai qu'effectivement, à Tours, il y a plus de vie. Plus de vie urbaine qu'il n'y en avait à Orléans. Mais là aussi, les choses ont changé. Voilà. Enfin, on était toujours frappé quand on est arrivé là, on allait au restaurant, à 9h du soir, on commençait à vous dire qu'on allait fermer. C'est vrai que ça, au début, ça... Bon, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Hein. Donc, voilà.
Et par rapport à Paris, est-ce que c'est un avantage d'être si près de la capitale, ou est-ce qu'au contraire, ça a un peu écrasé le développement de...
Vous savez, j'ai eu, y compris professionnellement, pendant tout le temps, on a toujours eu à se préoccuper de cette problématique entre Orléans, ville du bassin parisien, ou ville du Val-de-Loire. Bon... Moi, j'ai toujours été partisan, justement, qu'on renforce la coopération ligérienne et qu'on structure la région centre clairement autour de l'axe ligérien, comme c'est une région qui n'était pas très structurée. Ouais. Mais ça aurait été suicidaire de se priver des avantages de la proximité de la région parisienne. Enfin, je veux dire, si Orléans, c'est dit que... Dans les années 60-70, ça a été l'une des villes qui s'est le plus fortement développée de toutes les villes françaises. Si elle n'avait pas été dans la proximité de la région parisienne, ça ne se serait pas passé comme ça. Hein, c'est bien, donc, notamment le nombre de décentralisations qui ont eu lieu parce que Orléans était près de Paris a été un facteur de développement tout à fait... déterminant, hein, que ce soit IBM ou tout ce qui tourne autour de la parfumerie ou bon, le BRGM, c'est un peu différent parce que c'est quasiment une décision d'État, mais s'il n'y avait pas eu la proximité de la région parisienne, ça ne se serait pas fait. Donc il faut qu'Orléans joue sur ses deux pieds, ville du bassin parisien à 1 heure de Paris, et puis capitale régionale, pôle de l'axe ligérien. Donc il faut jouer toutes ces cartes. Mmh. Hein.
Et donc là j'ai des questions un peu plus linguistiques, c'est à propos des langues qu'on parle à Orléans.
Oui.
Est-ce que vous entendez... À part le français, est-ce que vous entendez beaucoup d'autres langues parlées ?
Non, je veux dire que... Moi, je n'ai pas l'occasion, enfin, comme je n'ai pas l'occasion d'entendre beaucoup de langues étrangères, hein, d'abord parce que je les pratique très très mal, et... M'adressant à un prof d'anglais, je dis toujours en la matière que je suis l'exemple du gâchis de l'enseignement des langues étrangères dans l'enseignement français, parce que après avoir fait je ne sais plus combien de nombre d'années d'anglais, je trouve que collectivement pour le système d'enseignement français, qui est autant de gens qui soient comme moi dans cette situation-là, a été un foutu de soutenir une conversation en anglais après avoir subi, j'allais dire subi autant d'années d'enseignement, c'est vraiment un gâchis collectif monstrueux. Hein. Bon, bref, cette parenthèse étant faite, non, on a assez peu l'occasion d'entendre des langues étrangères, sauf que c'est vrai que maintenant, si je vais chez mon pharmacien à l'Argonne, j'entends beaucoup parler arabe, hein, je veux dire, bon, autrement, il y a les quelques touristes qu'on voit au centre de la ville d'Orléans, mais on ne peut pas dire qu'Orléans soit une ville touristique. Hein. Bon. Donc, j'ai assez peu l'occasion d'entendre des langues étrangères.
D'accord. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on parle bien à Orléans, puisque justement c'est une des raisons pour lesquelles les Britanniques étaient venus enregistrer dans le Val-de-Loire?
Oui, ça, je me souviens effectivement quand on a reçu les premiers correspondants anglais de nos enfants, c'était les deux premiers. Enfin, ils étaient venus parce qu'ils venaient dans le Val-de-Loire où on parlait mieux qu'ailleurs. Bon, je pense que ce serait certainement très prétentieux de dire qu'on parle mieux le français qu'ailleurs, mais c'est vrai que pour un étranger qui veut apprendre le français, je pense qu'il vaut quand même mieux qu'il vienne dans le Val-de-Loire que d'aller à Marseille, quoi. Hein, parce que je pense que on a toujours de l'accent que pour les autres, hein, soi-même on n'en a jamais d'accent, mais bon, je pense que disons qu'il me semble qu'on parle français dans le Val-de-Loire avec moins d'accent. Je ne dirais pas qu'on le parle mieux qu'ailleurs. peut-être, mais ça, vous êtes mieux placé que moi.
Justement, au niveau de l'évolution du français, est-ce que vous trouvez que les gens en général, que ce soit le commun des mortels ou alors les présentateurs télévisés, ou parlent mieux ou moins bien ou...
Je parle pas assez bien le français pour être, je suis pas un puriste, hein, notamment par rapport aux présentateurs, mais je suis le premier à m'amuser, du palier A et du palier ça, bon, des petites choses comme ça, mais bon, nous en plus, notre environnement, nos amis, tout le monde parle le même français. Alors c'est vrai que quand on discute avec des jeunes, ou bon, notamment des jeunes du quartier, c'est vrai qu'ils se créent un sabir jeune assez impressionnant. Quoi, hein. C'est, bon. Mais comment ça évoluera, je ne sais pas. Enfin, je note pas les présentateurs télé par rapport au nombre de fautes de français qu'ils font.
Ouais, d'accord. Et donc là, c'est dans la dernière lignée des questions, c'est totalement différent, c'est au niveau gastronomique. Est-ce qu'il y a un plat particulier, soit à Orléans, soit à la région, quelque chose de typique?
Ah, vous me prenez de court. Je ne suis pas un grand gourmet. Je dirais que j'aime bien plutôt goûter ce qui se présente à l'occasion des différents déplacements. Je suis pas à demander le steak frites quand je suis au Caire, quoi, hein, donc non, je on me demanderait un dernier plat, vous voyez, il faudrait que j'y réfléchisse.
Donc là, la dernière question, donc c'était pour amener cette dernière question un peu délicate, là, l'histoire de la gastronomie, parce que c'est une question qu'on a conservée de l'enquête d'origine. Donc c'est une question que les Britanniques posaient aux Orléanais, c'est pouvez-vous nous donner la recette de l'omelette? Comment est-ce qu'on fait une omelette chez vous? Puisqu'ils voulaient avoir une recette, alors ils n'ont pas choisi quelque chose de compliqué, ils voulaient le déroulement d'une omelette traditionnelle.
D'abord, je l'aime bien baveuse, mais je saurais faire des œufs sur le plat. Mais pour moi, une omelette, en dehors du fait que ce sont des œufs battus, je ne saurais pas vous en dire plus, parce que c'est vrai que c'est en ça où je me sens parfois, je vois, y compris par rapport à mes enfants, où dans leur ménage, il n'est pas rare que ce soit l'homme qui cuisine, et qui même aime cuisiner, et souvent cuisine très bien. Chez nous, c'est vrai que je me préoccupe assez peu de la cuisine. Donc l'omelette, je vous dis, voilà, je mettrai des œufs dans un récipient, je battrai les œufs, et je les mettrai sur une poêle, et je veillerai à en retourner les bords pour que ça... c'est tout.
Voilà, d'accord. Bon, je vous remercie. C'est là qu'on termine sur cette recette.